Chapitre 15. Emmanuel Kant. Contre la masturbation. Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Kant est un colosse de la philosophie. On ne peut guère l'enjamber comme si de rien n'était quand on traverse le XVIIIe siècle, et je vous avouerai que ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais à sa rencontre. Si mes choix de textes dans ce livre ont été jusque-là surtout guidés par mes propres goûts, ce chapitre fera exception. C'est par devoir seulement, et non par inclination, que je parlerai de Kant. En cela, je suis peut-être son lecteur le plus moral. Somme toute, les authentiques amateurs de Kant n'ont aucun mérite, eux qui justement aiment ses œuvres et sont donc poussés dans leur lecture par ce motif bassement sensible qu'ils y prennent du plaisir. C'est un peu facile. Pour ma part, je vous assure n'en avoir jamais pris. Ma lecture est bien plus désintéressée. Emmanuel Kant est né, a vécu et est mort à Königsberg, en Prusse orientale. En 1781, ce casanier professeur d'université a 57 ans. Il a bien sûr écrit quelques ouvrages dans sa carrière, mais rien qui en fasse encore un philosophe majeur. Sa contribution la plus importante d'un point de vue scientifique, et qui est souvent oubliée par les philosophes, est son Histoire naturelle générale et théorie du ciel, publiée en 1755. Kant y formule pour la première fois, afin d'expliquer l'origine du système solaire, l'hypothèse d'une nébuleuse de gaz s'effondrant sur elle-même sous l'effet de la gravitation. L'hypothèse a depuis été largement confirmée. C'est cette année-là, en 1781, que Kant publie la Critique de la raison pure. Suivront, dans la même décennie, les prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, les fondements de la métaphysique des mœurs, la Critique de la raison pratique et la Critique de la faculté de juger. Autant d'ouvrages au titre redoutable qui marquent un tournant dans l'histoire de la philosophie. Il serait absurde de prétendre en faire le tour en l'espace de quelques pages, et je voudrais me concentrer ici sur certains aspects centraux, et somme toute amusants, de sa philosophie morale qui constitue l'un de ses apports les plus importants. Mais puisque nous venons tout juste de quitter la compagnie de Hume, je me sens obligé de commencer par présenter en quelques mots la Critique de la raison pure, qui, comme je le mentionnais dans le chapitre précédent, se présente comme la réponse de Kant à l'empirisme sceptique de son confrère écossais. Kant disait avoir été « tiré de son sommeil dogmatique » par la critique de l'induction et de la causalité formulée par Hume. Il lui semblait inacceptable que le fondement des connaissances et des sciences puisse être ainsi laissé non seulement à l'incertitude, mais même à l'irrationalité. Le succès empirique des sciences, et tout particulièrement de la mécanique de Newton, était trop parfait pour ne pas être fondé de façon rationnelle et non sur de simples lois psychologiques comme le suggérait le débonnaire joueur de trictrac. Il devait y avoir un moyen nécessaire, certain, a priori et purement rationnel, de justifier, entre autres choses, qu'il y a dans la nature un ordre causal que la science peut découvrir. Pour y parvenir, Kant abordera la question sous un angle nouveau en se penchant sur les conditions de possibilité de toute connaissance en général. Autrement dit, la Critique de la raison pure s'efforce de répondre à la question « Que puis-je connaître ?» Et ainsi, ce qui déterminera les limites du connaissable, ce seront les limites de l'instrument grâce auquel nous pouvons former des connaissances, c'est-à-dire notre entendement, ou ce que nous appellerions aujourd'hui notre cognition. De la même façon, nous pourrions dire que ce qui détermine les limites du visible, ce sont seulement les caractéristiques de nos yeux et du traitement cognitif de la vision. L'idée centrale de l'épistémologie de Kant pourrait alors être formulée, en modernisant un peu les choses, de la façon suivante. Tout ce que nous pouvons connaître ne peut l'être que pour avoir été traité par notre cognition, et nous n'avons donc pas accès aux choses telles qu'elles sont en dehors de ce traitement, c'est-à-dire aux choses en soi, mais seulement à ce qui en apparaît à travers le prisme de notre cognition. Pour filer la comparaison avec la vision, nous pourrions dire que nous ne voyons jamais que des couleurs, des formes, etc., qui sont les résultats de traitements neuronaux très complexes, mais nous ne pouvons en aucun sens voir directement les états du monde, tels que les ondes électromagnétiques, qui seraient à l'origine de ces couleurs et formes qui nous apparaissent. Et donc, s'il s'avère que ce traitement cognitif impose certaines caractéristiques à tout ce qui lui est donné, ces caractéristiques pourraient être attribuées a priori à tout ce qui nous apparaîtra. De façon analogue, je pourrais attribuer a priori à toute expérience visuelle la propriété d'être d'une certaine couleur. C'est par ce moyen que nous pourrions établir des jugements a priori sur le contenu de toute expérience possible. De tels jugements ne nous apprendraient rien du monde, à strictement parler, mais ils nous diraient quelque chose de nous-mêmes et du moyen grâce auquel nous pouvons connaître le monde. Il me semble que l'idée la plus heureuse de Kant est d'avoir compris que la meilleure façon de réfléchir au fondement de la connaissance, de la morale ou de quoi que ce soit d'autre, était d'examiner ainsi leurs conditions de possibilité. Je signale au passage que Kant utilise l'adjectif « transcendantal » pour signifier ce qui est relatif aux conditions de possibilité. Ne fuyez donc pas devant ce mot effrayant qui revient fréquemment sous la plume de Kant, son sens n'est pas plus mystérieux que cela. Ce type d'approche est en effet fécond et fera d'illustres émules. Nous verrons par exemple que Wittgenstein, au début du XXe siècle, s'interrogeant sur les fondements du langage et de la logique dans son Tractatus Logico-Philosophicus, adopte une démarche tout à fait kantienne ou transcendantale. Il réfléchit aux conditions de possibilité d'un langage ou de la signification en général. Autrement dit, il s'efforce de tracer les limites de ce qui peut être dit, de la même façon que Kant cherchait à tracer les limites de ce qui peut être connu. Revenons donc à notre cher philosophe de Königsberg. Je reconnais volontiers que son intention de réfléchir aux conditions de possibilité de la connaissance est enthousiasmante. Sur la question de la causalité, par exemple, puisque c'est celle qui nous intéressait chez Hume, Kant cherchera à montrer que penser des relations causales entre les phénomènes relève des conditions de possibilité de l'expérience. Nous ne pourrions en quelque sorte regarder le monde qu'à travers des lunettes qui imposent un ordre causal. Pour autant, il n'y a pas de causalité dans les choses en soi, pas plus qu'il n'y a de couleur réelle dans la chose que nous voyons colorée. Mais la nature, c'est-à-dire l'ordre des phénomènes, suit bien un ordre causal puisqu'il est directement imposé par notre entendement. Tout cela reste très allusif et vous devriez vous demander, Kant parvient-il vraiment à démontrer tant de belles choses ? Je vous laisserai vous faire votre propre opinion en lisant la critique de la raison pure jusqu'à la déduction transcendantale des concepts purs de l'entendement. Ou peut-être vous faudra-t-il même la lire jusqu'au bout, car Kant insiste régulièrement sur le fait que c'est en constatant la cohérence de son système tout entier que l'on peut reconnaître la nécessité organique de chacune de ses parties. Bon courage donc. Pour ma part, je ne vais pas ici tenter de résumer 600 ou 700 pages touffues et souvent obscures, mais je soulignerai d'une part que bien rares sont ceux qui considèrent que la chaîne de raisonnement de Kant reste parfaitement valide, ou même seulement intelligible, de bout en bout de la critique, et d'autre part que Kant ne cesse de répéter au lecteur à quel point elle l'est et doit l'être, à quel point son système couvre nécessairement tous les cas et exclut toute autre possibilité. Le problème n'est pas que Kant manque de prudence et de modestie épistémologique, mais que le type même de théorie de la connaissance qu'il cherche à construire semble lui interdire d'être modeste et prudent. Pour échapper au scepticisme de Hume, son épistémologie n'a de cesse de courir après la nécessité, la certitude a priori et apodictique. Kant ne peut pas se permettre de reconnaître en quelque articulation de sa pensée « à la réflexion, ce point n'est pas si clair, mon argument est plausible sans être absolument contraignant et je laisse de côté certaines possibilités ». Kant est ainsi condamné à répéter, pour caricaturer un peu, à peine, « chaque élément de mon système est rigoureusement à sa place et à la seule place possible, rien ne peut y manquer, rien ne peut y être ajouté ». Tout y est irréprochablement déduit en toute nécessité. Or, affirmer que l'on fait preuve d'une exhaustivité et d'une rigueur absolue, et plus encore affirmer que tout un système ne tient qu'en vertu de cette exhaustivité et de cette rigueur, ne renforce pas l'argumentation. Au contraire, cela l'affaiblit considérablement, puisque, selon son propre aveu, la découverte de la plus petite imperfection devrait suffire à l'invalider. En cela, ce genre d'ambition épistémologique est l'exact inverse du pur scepticisme qui pousse la prudence et la modestie, en toute cohérence, jusqu'à douter d'être sceptique. En fin de compte, il y a bien un sens à considérer que Kant, et à sa suite une bonne part de la philosophie allemande, reste pré-Humien dans son obsession de certitude absolue, de l'a priori, des fondements purement rationnels. Les arguments de Hume l'avaient peut-être tiré de son sommeil dogmatique, mais Kant aura consacré l'essentiel de ses efforts sur le sujet à trouver un moyen de se rendormir, entraînant malheureusement avec lui une bonne partie de la philosophie. Le plus notable exemple étant son compatriote Hegel, sur qui je garde un silence respectueux. Par ailleurs, je dois rendre à Russell la paternité de ce bon mot. Il écrivait « Hume le tira de son sommeil dogmatique, Kant le dit du moins, mais ce réveil fut temporaire et bientôt il inventa un soporifique qui lui permit de s'endormir de nouveau. » Bertrand Russell, Histoire de la philosophie occidentale. Cette histoire de la philosophie n'est certes pas un modèle de rigueur, mais elle est relevée par de délicieuses méchancetés de cette sorte. De fait, l'épistémologie contemporaine ne se porte pas si mal en renonçant aux exigences exorbitantes de certitude absolue, et les sciences n'ont eu aucune difficulté à progresser sans avoir à répondre à la question de savoir à quel point le concept de causalité est fondé a priori ou s'il est même seulement cohérent. En fait, bizarrement, dans une large mesure, les sciences ne se soucient pas le moins du monde du concept de causalité. Quittons les terres épistémologiques et aventurons-nous dans un autre domaine où règne Kant, la morale. Après avoir répondu à la question « Que puis-je connaître ?» dans la critique de la raison pure, Kant allait répondre à la question « Que dois-je faire ?» dans la critique de la raison pratique. En toute simplicité. Il est classique de distinguer deux types principaux de philosophie morale, les morales déontologiques et les morales conséquentialistes. Ce qui caractérise ces dernières, c'est que la valeur morale d'une action aura à voir seulement avec ses conséquences. Ma formule reste très vague car elle doit recouvrir une large diversité de théories. L'un des nombreux points cruciaux à préciser est de savoir si l'on va s'intéresser aux conséquences réelles ou seulement aux probabilités des conséquences attendues. Et dans ce second cas, on peut encore distinguer entre les probabilités de conséquences que l'auteur de l'action pouvait attendre objectivement, par tel ou tel moyen qui demanderait à être spécifié, ou bien seulement les probabilités que l'auteur de l'action, de fait, attendait subjectivement, quitte à ce qu'il se soit mal informé et évalue ses probabilités de façon fantaisiste. D'autre part, les formes de conséquentialisme varieront aussi selon le type d'évaluation que l'on fait de ces diverses conséquences. Est-ce la quantité de bonheur qui compte, et selon quelle conception du bonheur, ou bien le ratio bonheur sur malheur, ou encore le degré de satisfaction des préférences, ou la profondeur logique de Bennett, ou le nombre de trombones dans l'univers? Le choix est large. Si vous ne comprenez pas pourquoi je parle du nombre de trombones dans l'univers, c'est que vous ne connaissez pas encore le jeu Universal Paperclip. Cherchez sur Internet, c'est gratuit, mais prenez garde, il est difficile de ne pas y perdre une journée de sa vie. C'est aussi une référence à de célèbres expériences de pensée de Nick Bostrom. En fin de compte, pour n'importe quel but concevable, on peut considérer la morale conséquentialiste qui viserait à maximiser la réalisation de ce but. Mais toutes ces théories ne semblent pas aussi plausibles, car certains buts, comme maximiser le bonheur ou la complexité, nous semblent moins arbitraires que d'autres. Tous ces contes d'apothicaire n'intéresseront pas Kant. Sa morale est justement opposée à toute forme de conséquentialisme. Elle est déontologique. C'est une morale du devoir. Ce qui caractérise ce type de morale, c'est que la valeur d'une action aura à voir avant tout avec des principes ou des règles. Par exemple, si l'on considère que Dieu nous a donné une certaine loi à suivre, un code moral à respecter, alors du point de vue religieux, une action sera considérée comme morale en vertu de sa conformité à cette loi, et non en vertu des conséquences de son application, qui sont peut-être utiles et bénéfiques, mais peu importe. Une morale religieuse de cette sorte est donc un exemple de morale déontologique. Kant, pour sa part, ne voudra pas fonder la morale sur une loi donnée par Dieu. Dans la critique de la raison pure, il s'est justement efforcé de montrer que Dieu n'est pas un objet de connaissance possible. Toutes les preuves de son existence, que tant de philosophes ont proposées avant lui, sont donc nécessairement erronées. Dieu peut être un objet de foi, mais il est absolument impossible qu'il devienne l'objet d'une connaissance. On reconnaît souvent à Kant le mérite d'avoir définitivement réglé le compte de toutes les preuves de l'existence de Dieu, mais il me semble que la principale raison pour laquelle nous lui attribuons cet exploit, ce n'est pas tant que la réfutation de Kant soit en elle-même si convaincante. Il semble notamment qu'elle ne puisse vraiment remettre en cause qu'un type assez restreint de preuves, les preuves a priori. C'est plutôt que nous sommes très favorables à l'idée que la raison dise une bonne fois pour toutes à la religion de se mêler de ses oignons, quelle qu'en soit la justification. Se réclamer de Kant pour cela, c'est encore mieux. Dieu étant hors jeu, il valait donc mieux que la morale trouve un autre fondement plus assuré. Et ce fondement, pour Kant, sera bien sûr purement rationnel et a priori. Mais il est intéressant de noter que, de façon surprenante, les prescriptions de cette morale purement rationnelle coïncideront assez parfaitement avec la morale chrétienne dans laquelle Kant a lui-même été élevé, condamnant notamment le suicide, la sexualité hors mariage et la masturbation. Il dira de cette dernière pratique qu'elle constitue l'un des pires manquements à la moralité et que le fait même de la nommer est immoral. Ainsi écrit-il, « Que cet usage contre nature, par conséquent cet abus, des organes sexuels, soit une violation du devoir envers soi-même et même un des plus graves manquements à la moralité, c'est ce que chacun reconnaît aussitôt qu'il y songe, et même la seule pensée d'un pareil vice répugne à tel point que l'on regarde comme immoral de l'appeler par son nom. Tandis que l'on ne rougit pas de nommer le suicide et que l'on n'hésite pas le moins du monde à le montrer aux yeux dans toute son horreur. Il semble qu'en général, l'homme se sente honteux d'être capable d'une action qui rabaisse sa personne au-dessous de la brute. » Emmanuel Kant, Doctrine de la vertu. Tout cela pour des raisons purement rationnelles, bien sûr. Toutefois, il n'est pas interdit de soupçonner certaines de ces justifications d'être quelque peu ad hoc. C'est bien facile de se moquer, me diront peut-être certains de mes lecteurs, mais presque tous les philosophes du passé ont soutenu des thèses qui nous semblent aujourd'hui moralement choquantes ou désuètes. Hume, par exemple, était aussi profondément raciste que Kant, qui se fait un plaisir de le citer sur ce point. Mais Hume ne se posait pas en maître de morale puisqu'il ne défendait pas une théorie prescriptive sur ce sujet. En effet, à la différence d'une approche dont l'ambition ne serait que descriptive et relative, rendre compte de ce qui est tenu pour moral par tel ou tel groupe, la philosophie morale de Kant adopte une approche normative et absolue. Elle prétend établir des principes universels qui valent en tout temps et en tout lieu. Pourquoi ces principes devraient-ils s'accorder parfaitement avec les normes de la société particulière que Kant fréquentait? Étant donné l'importante variabilité de ces normes selon les époques et les cultures, ce serait une étrange coïncidence que la morale normative universelle naisse précisément au seul endroit où elle régnait déjà. Il est intéressant de comparer la morale de Kant à celle de Jeremy Bentham. Celui-ci a vécu à la même époque que Kant, en Angleterre, et est le fondateur d'une autre philosophie morale normative qui deviendra très importante, l'utilitarisme. Il s'agit d'une forme de conséquentialisme qui se décline aujourd'hui en d'innombrables variantes, ayant ceci en commun que c'est avant tout le bonheur individuel, qui chez les utilitaristes classiques était compris en un sens hédoniste, que l'on cherchera à maximiser dans les conséquences de nos actions. En somme, l'utilitarisme est le conséquentialisme qui assigne à la morale la tâche de nous rendre aussi heureux que possible. De nombreuses implications de l'utilitarisme de Bentham semblaient extrêmement contre-intuitives à son époque, notamment sa dimension fortement égalitariste. Considérant que tout être humain a a priori une même capacité à être heureux, aucun type d'individu n'a a priori plus d'importance qu'un autre du point de vue moral, et chacun devrait être également pris en considération dans le calcul des conséquences. La logique de l'utilitarisme impliquait ainsi une condamnation morale du racisme, du sexisme et plus largement de toute forme de discrimination générale dans la considération des intérêts entre les êtres humains. Cela n'avait rien d'évident pour l'époque, et les utilitaristes exprimaient ces condamnations tout à fait clairement. Kant, en comparaison, est l'un des premiers théoriciens d'un racisme scientifique qui a largement servi à justifier l'esclavage, puisque, s'il admettait l'unicité de l'espèce humaine, il n'en présentait pas moins les Européens blancs comme représentant la race pure et supérieure, et les Noirs inférieurs comme incapables d'être éduqués à autre chose qu'à la servitude. Cette typologie des races est notamment développée dans son essai sur les différentes races humaines. Emmanuel Tchoukoudi Eze, dans son livre « The Color of Reason », « La couleur de la raison », cite de nombreux passages de Kant fort embarrassants. Par exemple, « L'humanité existe dans sa plus grande perfection dans la race blanche. Les Indiens jaunes ont une plus petite quantité de talent. Les nègres sont plus bas, et les plus bas sont une partie du peuple américain. » Ou encore, Kant écrit « Les nègres peuvent être éduqués, mais seulement comme serviteurs, esclaves, c'est-à-dire qu'ils se laissent entraîner. » Si la question de l'esclavage est tout de même évoquée de façon abstraite dans la doctrine du droit et que Kant rejette l'idée que des enfants d'esclaves naissent esclaves, il n'y a chez lui, à ma connaissance, aucune forme de condamnation de l'esclavage des Noirs tel qu'il était pratiqué à son époque. Quant à ce point sur le fait qu'un enfant ne naît pas esclave, il est peut-être lié au fait que Kant considérait que tous les nouveau-nés sont blancs et que ce n'est qu'ensuite que la noirceur se répand. Kant écrit en effet « Les nègres naissent blancs, sauf au niveau de leur partie génitale et d'un anneau autour du nombril. Durant le premier mois, la couleur noire s'étend sur l'ensemble du corps à partir de ces parties. » Kant essaie sur les différentes races humaines. Il considérait par ailleurs que les femmes étaient des sortes de possessions de leur mari, au même titre que les enfants le sont de leurs parents ou les domestiques de leur maître. Ainsi, dans son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, peut-on lire « Des enfants sont naturellement pupilles et leurs parents sont leurs tuteurs naturels. La femme mariée, à tout âge, est traitée comme civilement pupille. Le mari est son tuteur naturel. » Et dans sa doctrine du droit, on peut lire encore, dans une analyse de la notion d'acquisition légale, « L'homme acquiert une femme, le couple acquiert des enfants et la famille des domestiques. » Et Kant tenait aussi d'étranges propos sur le fait que la loi peut ignorer la destruction des enfants nés en dehors du mariage, semblable à de la marchandise clandestine. « L'enfant né hors du mariage, écrit-il, est né hors de la loi, car la loi c'est le mariage, et par conséquent aussi hors de la protection de la loi, c'est pour ainsi dire glisser dans la République comme une marchandise prohibée, de telle sorte que celle-ci peut ignorer son existence, puisque légitimement il n'aurait pas dû exister de cette manière, et par conséquent aussi sa destruction. Et, d'un autre côté, il n'y a pas de décret qui puisse épargner à la mère le déshonneur lorsque son accouchement en dehors du mariage vient à être connu. Kant, doctrine du droit. On pourrait bien sûr excuser Kant, victime des préjugés dans lesquels il a été élevé, comme bien d'autres philosophes avant et après lui. Mais à la différence des autres, il prétendait rien de moins qu'établir définitivement et de façon purement rationnelle les fondements de la morale. Aussi me semble-t-il légitime de se demander quels ont été les effets de sa philosophie sur la perception de ce qui nous paraît aujourd'hui constituer des enjeux moraux importants au XVIIIe siècle. Et le fait justement que cette philosophie ne l'ait guère éclairée sur ces enjeux est frappant et peut nous faire douter de la capacité de ce type de théorie à nous aider à identifier de similaires points aveugles dont nous serions victimes aujourd'hui. Or, ne serait-ce pas précisément ce que l'on pourrait attendre d'une théorie morale prescriptive ? L'utilitarisme de Bentham allait plus loin encore. Concevant le bonheur comme lié au plaisir et à la souffrance, sa théorie avait pour conséquence scandaleuse d'étendre la considération morale à tout être capable d'éprouver de la souffrance, et donc jusqu'aux animaux, en fonction des différents degrés de leur sensibilité. Son utilitarisme jetait ainsi les bases de la réflexion sur la cause animale, à une époque où un tel souci était à peu près inaudible. Bentham ne le formule que dans une note de bas de page, sans doute conscient que cela n'aurait guère de sens pour ses contemporains, mais cette note deviendra un texte fondateur de la réflexion sur l'éthique animale au XXe siècle, et cela mérite bien d'être lu. Pourquoi, écrit Bentham, les intérêts des animaux ne sont-ils pas universellement, tout autant que ceux des créatures humaines, considérés en fonction des différences de degré de sensibilité ? Autrefois, et j'ai peine à dire qu'en de nombreux endroits cela ne fait pas encore partie du passé, la majeure partie des espèces, rangées sous la dénomination d'esclaves, étaient traitées par la loi exactement sur le même pied que, aujourd'hui encore, en Angleterre par exemple, les races inférieures d'animaux. Le jour viendra peut-être où il sera possible au reste de la création animale d'acquérir ces droits qui n'auraient jamais pu lui être refusés, sinon par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est nullement une raison pour laquelle un être humain devrait être abandonné sans recours aux caprices d'un tourmenteur. Il est possible qu'on reconnaisse un jour que le nombre de jambes, la pilosité de la peau ou la terminaison de l'os sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes d'abandonner un être sensible au même destin. Quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner ? Ou peut-être la faculté de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte est, au-delà de toute comparaison, un animal plus raisonnable, mais aussi plus sociable, qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine, ou même d'un mois. Mais supposons que la situation ait été différente, qu'en résulterait-il ? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Jérémy Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation. Est-ce un autre point aveugle dont nous sommes victimes aujourd'hui et que l'utilitarisme de Bentham repérait dès le XVIIIe siècle ? De fait, l'écrasante majorité des philosophes contemporains, et particulièrement ceux qui s'intéressent aux questions éthiques, s'accordent à reconnaître que le traitement que nous infligeons aux animaux est un problème moral majeur de notre siècle, jusque-là injustement négligé. La philosophie utilitariste de Bentham est clairement une théorie morale prescriptive. Elle ne justifie pas les jugements moraux de son époque, mais invite plutôt à les réviser d'une façon profonde. Et ce qui est surtout étonnant avec les utilitaristes classiques, c'est que leur prescription semble avoir remarquablement anticipé l'évolution de nos normes sur de nombreux points, à une époque où il était pourtant très difficile d'envisager des révisions normatives aussi radicales. Autre exemple frappant de cette anticipation, Jérémy Bentham fut le premier auteur européen à consacrer des études, qu'il renonça à publier de son vivant, à la question de l'homosexualité. Il s'y prononçait en faveur de sa dépénalisation, ce qui est en effet logique du point de vue utilitariste. Pourquoi punir des actes qui apportent du plaisir à ceux qui les pratiquent et ne nuisent à personne d'autre ? Mais cela s'opposait profondément aux sentiments de toute son époque. La sodomie était perçue comme une abomination et elle restera passible de la peine de mort jusqu'en 1861 en Angleterre, puis de prison jusqu'en 1967, ce qui ne manque pas de nous choquer aujourd'hui. Bentham avait donc perçu, avec 2 siècles d'avance, le problème moral que ces législations constituaient. Il me semble légitime de regarder ces anticipations prescriptives de l'utilitarisme comme une forme de succès prédictif, justifiant de penser que l'évolution future de nos normes est encore aujourd'hui mieux anticipée par une réflexion utilitariste que par la morale de Kant. Il reste bien sûr possible que, du point de vue moral, nous ayons tout à fait tort et que notre véritable devoir absolu soit de nous conformer aux mœurs du protestantisme prussien du XVIIIe siècle, incarnation parfaite et achevée de la morale qui était, par pure coïncidence, contemporaine de l'auteur qui a réussi le premier à en formuler les fondements rationnels. Mais tout de même, j'en doute. Un lecteur agacé que je parasite ce chapitre sur Kant en y faisant l'éloge de Bentham et de l'utilitarisme pourrait se demander pourquoi je ne lui en ai pas consacré un tout entier. En professeur de philosophie éthique et responsable, j'ai cru bon jusque-là de m'en tenir aux auteurs de la liste fixée par le programme de philosophie de terminale en France. Cette liste est longue, 57 auteurs, et très inclusive, surtout pour la période moderne. On y trouve même l'italien Giambattista Vico. Y a-t-il un prof de philo sur 1000 pour s'y référer une seule fois en cours ? Or, Jérémy Bentham n'a pas l'honneur d'en faire partie. C'est surprenant et révélateur, me semble-t-il, d'un mépris assez répandu en France à l'égard de l'utilitarisme. Kant est un passage obligé, Bentham n'est pas même conseillé. Mais je parlerai tout de même plus tard d'un autre grand utilitariste, le seul qui apparaît sur cette fameuse liste, John Stuart Mill. À partir de la rentrée 2020, la liste d'auteurs est enrichie d'une 30aine de noms, ce qui la porte au nombre absurde de 84 auteurs, dont celui de Bentham. 2 utilitaristes au programme, c'est fou. Revenons enfin à Kant et tâchons de lui faire un peu plus honneur. En quoi consiste donc sa théorie en dehors de la condamnation de la masturbation ? Quel est le fondement de la morale kantienne ? La première phrase des fondements de la métaphysique des mœurs est restée célèbre. « De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général, hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. » Cela peut faire, à la première lecture, le même effet en plus alambiqué que cette petite phrase sous laquelle on cache la déception d'un cadeau raté « C'est l'intention qui compte ». Mais la pensée de Kant est bien plus radicale et étrange que cela. Supposons qu'un ami m'offre une édition de la Critique de la raison pratique avec l'intention de me faire plaisir. C'est loupé. Mais une telle intention n'était-elle pas bonne ? Si mon ami s'est trompé, il n'en était pas moins de bonne volonté, voulant me faire plaisir. Et par conséquent, il a bien agi. Ce petit raisonnement n'a en fait rien de kantien, et sa volonté n'a rien de bonne au sens que Kant donne à cette expression dans les fondements de la métaphysique des mœurs. La justification de mon ami n'est pas déontologique, mais relève plutôt d'une forme subtile de conséquentialisme dans la mesure où la qualification morale de l'action est bien justifiée seulement par un certain aspect des conséquences. Dire « c'est l'intention qui compte », cela revient en général à dire que ce qui compte n'est pas tant la conséquence réelle que la conséquence que l'on attendait et que l'on avait l'intention de produire. Mais toute action motivée par la réalisation attendue d'une conséquence de cette sorte est, du point de vue de Kant, une action intéressée. Et l'idée centrale de Kant est que seule une action parfaitement désintéressée aura une valeur morale. Dans l'usage ordinaire de cette expression, une action est désintéressée quand elle est faite sans attendre de retour bénéfique pour soi. Par exemple, si mon ami avait fait ce cadeau pour que je lui en fasse moi-même un en retour, ou pour obtenir de moi une faveur, cela aurait été un cadeau intéressé. En revanche, s'il le fait juste pour me faire plaisir, et parce que ça lui fait plaisir de me faire plaisir, alors nous pourrions admettre que le cadeau est désintéressé. Mais Kant ne prend pas ce terme en ce sens. Le simple fait que mon ami attende de ce cadeau qu'il me fasse plaisir, et plus encore si ça lui fait plaisir de me faire plaisir, suffit à faire que l'action n'est pas désintéressée au sens kantien, et n'a donc pas de valeur morale. L'action peut être néanmoins bienveillante, utile, agréable, mais la volonté n'est pas assez pure pour être vraiment bonne. D'une façon paradoxale, cette quête de la pureté de l'intention morale parfaitement désintéressée conduit Kant à considérer que, si un homme est enclin à se montrer bienfaisant, alors, lorsqu'il prodigue sa bienfaisance, dans la mesure où il se contente de suivre son penchant naturel, son inclination, il ne fait somme toute qu'agir pour son propre plaisir, et cela n'a donc pas de valeur morale. Par exemple, si l'on considère que l'abbé Pierre était d'un naturel charitable, et il me semble raisonnable de le penser, ses actions de charité n'auraient eu, aux yeux du philosophe, aucune valeur morale. Elles n'auraient pas été mauvaises, bien sûr, c'est-à-dire qu'elles restent conformes aux devoirs, mais elles sont sans valeur morale en ceci qu'elles ne sont pas accomplies par devoir seulement. Ce que signifie ce « devoir » exactement est encore assez flou, mais nous y viendrons sous peu. Par contre, si l'abbé Pierre n'avait eu absolument aucune inclination charitable, mais avait pratiqué les mêmes actions de charité par devoir seulement, alors il aurait pu agir moralement. En somme, mieux vaut avoir un mauvais fond, n'être en rien enclin à la moralité, et devoir donc se forcer à agir par devoir, vous aurez alors peut-être l'occasion d'être véritablement moral. Cette idée audacieuse est très explicitement développée par Kant. Il écrit « Être bienfaisant quand on le peut est un devoir ». Et de plus, il y a de certaines âmes si portées à la sympathie que, même sans aucun autre motif de vanité ou d'intérêt, elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elles et qu'elles peuvent jouir du contentement d'autrui en tant qu'il est leur œuvre. Mais je prétends que, dans ce cas, une telle action, si conforme au devoir, si aimable qu'elle soit, n'a pas cependant de valeur morale véritable, qu'elle va de pair avec d'autres inclinations, avec l'ambition par exemple, qui, lorsqu'elle tombe heureusement avec ce qui est réellement en accord avec l'intérêt public et le devoir, sur ce qui par conséquent est honorable, mérite louange et encouragement, mais non respect. Car il manque à la maxime la valeur morale, c'est-à-dire que ses actions soient faites non par inclination, mais par devoir. Supposez donc que l'âme de ce philanthrope soit assombrie par un de ces chagrins personnels qui étouffent toute sympathie pour le sort d'autrui, qu'il ait toujours encore le pouvoir de faire du bien à d'autres malheureux, mais qu'il ne soit pas touché de l'infortune des autres, étant trop absorbé par la sienne propre, et que, dans ces conditions, tandis qu'aucune inclination ne l'y pousse plus, il s'arrache néanmoins à cette insensibilité mortelle et qu'il agisse, sans que ce soit sous l'influence d'une inclination, uniquement par devoir. Alors seulement son action a une véritable valeur morale. Je dis plus, si la nature avait mis au cœur de tel ou tel peu de sympathie, si tel homme honnête du reste était froid par tempérament et indifférent aux souffrances d'autrui, si la nature n'avait pas formé particulièrement cet homme, qui vraiment ne serait pas son plus mauvais ouvrage, pour en faire un philanthrope, Ne trouverait-il donc pas encore en lui de quoi se donner à lui-même une valeur bien supérieure à celle que peut avoir un tempérament naturellement bienveillant ? À coup sûr, et c'est ici précisément qu'apparaît la valeur du caractère, valeur morale et incomparablement la plus haute, qui vient de ce qu'il fait le bien, non par inclination, mais par devoir. Kant, fondement de la métaphysique des mœurs. Ainsi, la prochaine fois qu'un ami vous offre un cadeau en vous disant « ça me fait plaisir », vous pourriez faire mine de vous scandaliser « ton cadeau n'a donc aucune valeur morale, bravo !» Si votre ami est kantien, il comprendra. En vérité, Kant admet qu'il faut louer et encourager les actions conformes au devoir, même si elles ne sont pas réellement accomplies par devoir. Faites donc preuve de mansuétude et acceptez ce cadeau intéressé. Reste la question de savoir ce qu'il en est du devoir. Comment peut-on agir par devoir seulement ? Si l'on ne doit être motivé par aucune inclination ni conséquence pour que l'action soit absolument désintéressée, qu'est-ce qui détermine encore la volonté à agir ? C'est une difficulté centrale de la pensée morale de Kant dont la solution le conduit à formuler le principe fondamental de sa morale, le fameux impératif catégorique. Et voici le passage des fondements de la métaphysique des mœurs qui amène à sa formulation. Kant écrit « Or, si une action accomplie par devoir doit exclure complètement l'influence de l'inclination et avec elle tout objet de la volonté, il ne reste rien pour la volonté qui puisse la déterminer si ce n'est objectivement la loi et subjectivement un pur respect pour cette loi pratique. Par suite, la maxime d'obéir à cette loi, même au préjudice de toutes mes inclinations. » Note de Kant, on entend par maxime le principe subjectif du vouloir. Kant précisera ailleurs, la règle que l'agent se fait à lui-même en prenant pour principe certains motifs subjectifs s'appelle sa maxime. Kant poursuit. La valeur morale de l'action ne réside pas dans l'effet qu'on en attend, ni non plus dans quelques principes de l'action qui a besoin d'emprunter son mobile à cet effet attendu. Car tous ces effets, contentement de son état et même contribution au bonheur d'autrui, pourraient être aussi bien produits par d'autres causes. Il n'était donc pas besoin pour cela de la volonté d'un être raisonnable. Et cependant, c'est dans cette volonté seule que le souverain bien, le bien inconditionné, peut se rencontrer. C'est pourquoi se représenter la loi en elle-même, ce qui à coup sûr n'a lieu que dans un être raisonnable, et faire de cette représentation, et non de l'effet attendu, le principe déterminant de la volonté, cela seul peut constituer ce bien si excellent que nous qualifions de moral, présent déjà dans la personne même qui agit selon cette idée, mais qu'il n'y a pas lieu d'attendre seulement de l'effet de son action. Mais quelle peut donc être cette loi dont la représentation, sans même avoir égard à l'effet qu'on en attend, doit déterminer la volonté pour que celle-ci puisse être appelée bonne absolument et sans restriction ? Puisque j'ai dépossédé la volonté de toutes les impulsions qui pourraient être suscitées en elle par l'idée des résultats dus à l'observation de quelques lois, il ne reste plus que la conformité universelle des actions à la loi en général, qui doit seule lui servir de principe. En d'autres termes, je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Ici donc, c'est la simple conformité à la loi en général, sans prendre pour base quelques lois déterminées pour certaines actions, qui sert de principe à la volonté. Emmanuel Kant, fondement de la métaphysique des mœurs. Bon, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris ? C'est normal, je vous avouerai que moi non plus, et je me méfierai de celui qui prétendrait que tout cela est parfaitement limpide. C'est néanmoins intéressant, et je vais tâcher d'expliquer ce que j'en comprends. Vous en ferez ce que vous voulez. J'ai mentionné plus haut la distinction très classique entre les morales conséquentialistes et les morales déontologiques, le trait caractéristique de ces dernières étant de lier la valeur morale de l'action au respect de règles ou lois ou principes plutôt qu'à la considération des conséquences du respect de ces règles. Ce type de morale semble se présenter en gros de la façon suivante. Voici les principes moraux, suivez-les et vous agirez bien. Si le contenu des principes est plutôt sympathique et conforme à nos intuitions, ou si celui qui nous les suggère a une certaine autorité morale, par exemple s'il est réputé tout-puissant, omniscient, bénévolent et barbu, alors c'est une approche de la moralité qui peut tout à fait convaincre. Cela peut aussi se révéler utile comme outil pour inculquer un comportement moral, ou au moins approximativement moral. Après tout, même un utilitariste préférera commencer par fixer pour ses enfants quelques règles morales, il ne faut pas mentir, ni tricher, ni voler, ni dessiner sur les murs, etc., plutôt qu'attendre qu'ils soient en mesure de faire le calcul des plaisirs et des peines dans les conséquences de leurs actions. À 3 ou 4 ans, c'est encore un peu tôt. Ce qui fait qu'une morale est déontologique, c'est qu'elle pose des principes, une loi, des règles, mais rien dans cette définition n'en détermine le contenu. Et il y aurait ainsi une diversité de morales déontologiques basées sur des principes, lois ou règles diverses. Pour justifier une morale de cette sorte, il semble qu'il faille alors justifier le contenu de ces principes. Mais de quelle façon ? Si c'est en faisant valoir que les conséquences du fait de respecter ces principes sont bénéfiques, et cela d'autant plus que ceux qui les respectent n'ont pas à réfléchir aux conséquences, alors on tombe dans un argument conséquentialiste. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'utilitarisme de la règle est un exemple d'approche de ce genre qui semble en quelque sorte concilier, pour le meilleur, les deux types de morale. Kant refuse absolument ce genre de manœuvre. Sa morale sera bien déontologique et purement déontologique. Mieux que cela, ce sera la morale déontologique, la seule possible, la pure morale du devoir. L'idée fondatrice d'une telle morale, donc, c'est que bien agir, c'est agir non pas motivé par la visée de telle ou telle conséquence, mais seulement par respect envers un devoir absolu qui ne vise rien. La morale ne doit donc pas formuler d'impératif de forme « si tu veux Y, alors fais X », mais un impératif absolu de forme « fais X ». Tu le dois, tout court. Kant appelle les impératifs de forme « si tu veux Y, alors fais X » des impératifs hypothétiques. Ils prescrivent ce qu'on doit faire si on veut réaliser une certaine conséquence. Et en effet, une morale conséquentialiste ne prescrit jamais que ce genre d'impératif. Il faut assigner un but à la morale, par exemple le plus grand bonheur du plus grand nombre, et ce que l'on doit faire du point de vue moral résultera dès lors seulement d'impératifs hypothétiques visant ce but. Le véritable impératif moral pour Kant doit plutôt avoir la forme simple « tu dois ». C'est ce qu'il appelle, en opposition aux impératifs hypothétiques, l'impératif catégorique. Mais comment un devoir absolu peut-il avoir un contenu et prescrire quelque chose en particulier ? Toute l'habileté de la pensée de Kant est d'arriver à répondre à cette question par la seule analyse formelle de cette notion de devoir absolu. En quelque sorte, c'est sa forme seule qui va déterminer son contenu. Un devoir absolu serait donc un principe que tout être humain, plus exactement tout être capable d'agir d'après la représentation d'un principe, ce que Kant appelle être raisonnable, serait moralement obligé de suivre. Et donc, agir par devoir seulement, cela reviendrait à dire que l'on agit en voulant suivre un principe dont on reconnaît que tout être raisonnable devrait le suivre aussi, car c'est la définition même d'un devoir absolu. Ainsi, pour agir par devoir, il faut pouvoir considérer la règle de conduite que l'on a suivie comme une règle de conduite qui s'imposerait absolument à tous et pas seulement à soi. Dit encore autrement, on agirait d'une façon contraire au devoir quand on ne peut pas vouloir élever sa propre règle de conduite comme un principe que tout le monde devrait suivre. Cela semble encore très abstrait et formel, mais on peut en dériver des devoirs plus précis. Par exemple, lorsque je commets un vol, je ne peux pas vouloir poser ma façon d'agir, ma règle de conduite de voleur, comme un principe que tout le monde devrait suivre. En effet, cela n'aurait aucun sens, puisque si tout le monde suivait cette règle de conduite, autrement dit, si tout être raisonnable agissait en voleur, aucune propriété ne serait plus respectée, et c'est donc le vol lui-même, en ceci qu'il suppose une appropriation, et donc un régime de propriété, qui n'aurait plus de sens. Voler, tromper, tricher, abuser de la confiance en général, ce sont typiquement des actions que l'on ne peut faire qu'en voulant en même temps qu'elles restent exceptionnelles, puisque toutes ces actions cesseraient d'avoir un sens si elles devenaient la règle commune au lieu d'être l'exception. Ainsi, il semble bien que par la seule analyse du concept de devoir absolu comme étant ce qui s'applique à tous sans exception, Kant arrive à dégager des prescriptions assez précises. L'idée centrale est donc la suivante : agis de sorte que tu puisses vouloir que ta propre règle de conduite soit adoptée par tous les autres. Ou, pour citer la formule exacte de Kant, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Cela exprime, selon Kant, le seul impératif catégorique. Il en existe d'autres formulations, mais elles sont censées lui être toutes équivalentes. Et tout devoir moral particulier, comme ne pas mentir, ne pas voler, etc., est censé se déduire uniquement de ce principe, à la façon dont je l'ai esquissé un peu plus haut. Concernant l'équivalence des différentes formulations de l'impératif catégorique, notez qu'il en est une assez surprenante et très souvent citée. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. J'avoue n'avoir jamais vraiment compris le raisonnement par lequel Kant nous assure que cette formulation est bien équivalente à la première, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. À certains égards, tout cela peut nous faire penser aux reproches moraux que l'on adressera par exemple au malpropre qui laisse ses détritus derrière lui après avoir pique-niqué dans la nature. Et si tout le monde faisait comme toi ? Et certes, si ce malpropre reconnaît qu'il ne voudrait pas que tout le monde fasse comme lui, car il est bien content de pouvoir trouver encore un coin de nature où aller pique-niquer sans s'asseoir sur des ordures, et qu'il ne s'autorise à jeter ses détritus, lui, que parce qu'il compte sur le fait que tout le monde n'en fera pas autant, nous sentons qu'il y a bien quelque chose de condamnable dans cette contradiction entre ce qu'il tolère pour lui et ce qu'il attend des autres. N'est-ce que cette intuition que la morale de Kant a élevée en système ? Je n'en suis pas si sûr. Cette façon d'argumenter contre le malpropre donne encore trop d'importance aux conséquences de l'application universelle de la façon d'agir. Ce n'est pas un raisonnement déontologique. Cela ressemble plutôt, là encore, à de l'utilitarisme de la règle. Le test d'universalisation de la maxime chez Kant, c'est-à-dire se demander si je peux vouloir que tout le monde agisse selon les mêmes principes subjectifs que moi, ne doit pas considérer les conséquences de cette universalisation, mais plutôt sa cohérence ou son intelligibilité. Ce que j'essayais de montrer avec le cas du vol, ce n'est pas tant que le voleur serait horrifié du chaos qui se produirait si tout le monde se comportait en voleur comme lui, c'est plutôt que le concept même de vol n'aurait alors plus aucun sens puisque ce concept suppose la propriété et qu'il n'y aurait plus de régime de propriété si le vol était une loi universelle. Ainsi, le raisonnement reste bien purement déontologique. Avant de refermer ce chapitre, posons tout de même la question cruciale et qu'un lecteur attentif aura probablement au bout des lèvres, et la masturbation dans tout ça. Car je rappelle que c'est tout de même, selon Kant, l'un des plus graves manquements à la moralité. Le sujet est donc tout à fait sérieux. Lorsque je me masturbe, puis-je en même temps vouloir que la maxime de mon action masturbatoire devienne une loi universelle ? Il faut croire que non, selon Kant. Mais il est difficile de comprendre pourquoi. Il est même difficile de comprendre ce que cela veut dire. Quelle est la maxime de mon action lorsque je me masturbe ? La maxime, pour rappel, est le principe subjectif du vouloir, ou encore la règle que l'agent se fait à lui-même. Quelle est donc ma règle de conduite, le principe subjectif de mon vouloir, tandis que je me masturbe ? Et pourquoi ne pourrais-je pas vouloir l'universaliser ? Une humanité masturbante est-elle inintelligible ? C'est une phrase que vous ne vous attendiez pas à lire dans un chapitre sur la philosophie de Kant. En dehors des quelques exemples classiques, la fausse promesse, le vol, le meurtre, ce test d'universalisation de la maxime est extrêmement ambigu et ne semble d'aucune aide. L'un des principaux problèmes, c'est qu'il est difficile de spécifier ce qu'il faut universaliser. Cette idée de maxime est floue et permet n'importe quel ajustement ad hoc. En outre, la reformulation de l'impératif catégorique en « agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen » est encore plus ambiguë et permet presque autant de lectures qu'il y a de lecteurs. Ainsi, dans le passage où il en traite, Kant justifie que la masturbation est condamnable car l'homme, je cite, « se sert de lui-même comme d'un moyen pour satisfaire un appétit brutal ». J'ai pour ma part le sentiment de me traiter en même temps comme fin quand je me masturbe, et je pense surtout que tout cela n'a pas un sens assez clair pour être de quelque utilité. En fin de compte, la philosophie morale de Kant, toute prescriptive qu'elle soit, ne semble guère avoir pu guider son jugement moral. Ce respectable professeur de Königsberg avait toujours en lui la boussole des normes de son époque, et c'est elle qui déterminait ce qui serait ou non condamné par sa théorie, comme la masturbation par exemple. Si des Kantiens aujourd'hui contestent cette condamnation, ce n'est pas parce qu'ils ont mieux compris que Kant lui-même les implications de sa propre théorie, mais c'est seulement parce qu'ils ont une autre boussole morale qui ne leur interdit pas de se masturber. Enfin, je l'espère. Par exemple, il est commun de considérer que la morale de Kant porte en elle une condamnation sans réserve de l'esclavage. Réduire autrui en esclavage, cela revient bien à utiliser autrui comme simple moyen et à ne pas le respecter comme fin, et ce n'est pas une conduite universalisable. Mais il ne me semble pas que Kant s'en soit lui-même rendu compte, alors même que la condamnation morale de l'esclavage avait déjà le vent en poupe à cette époque. La théorie morale de Kant n'a pas modifié son jugement moral, même là où il semble rétrospectivement qu'il était le plus évident qu'elle aurait dû le faire. Kant n'était-il pas assez kantien ? Mais les kantiens actuels, eux non plus, n'ont pas découvert grâce à l'impératif catégorique que l'esclavage est immoral. C'est simplement parce que leur boussole morale indiquait que l'esclavage est immoral qu'ils auront ensuite cherché à utiliser l'impératif catégorique pour le justifier et découvert qu'ils le pouvaient aisément en effet. La théorie morale de Kant semble ne jamais fonctionner autrement. Elle justifie ce qu'indique la boussole morale de celui qui l'utilise, mais n'influence guère son aiguille. Quelques livres pour aller plus loin. Luc Ferry, Kant, une lecture des trois critiques, Grasset 2006. Pour m'excuser d'avoir tant maltraité le grand philosophe dans ce chapitre, je vous recommande cette lecture des trois critiques de Kant par le très kantien Luc Ferry. C'est un vulgarisateur de grand talent et ce livre parvient, malgré l'indéniable handicap que constitue son sujet, à se rendre accessible, clair et intéressant et constitue une belle introduction à la pensée de Kant. Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, Vrin 2000. Sous ce titre charmant se cache un livre relativement bref qui offre une sorte de condensé de la critique de la raison pure et pourra servir de guide à la lecture de celle-ci. Si l'épistémologie kantienne vous intéresse, c'est probablement le meilleur point d'entrée dans son œuvre. Ruhénogien, L'éthique aujourd'hui, Gallimard, Collection Folio, 2007. Ce petit ouvrage édité en poche offre un passionnant tour d'horizon de la philosophie morale. Ruhénogien en retrace toute l'histoire sous l'angle de l'opposition entre des éthiques maximalistes, dont celle de Kant, qui considèrent que tous les aspects de notre conduite sont soumis au jugement moral, même les conduites qui ne concernent que nous-mêmes, par exemple se masturber, et les éthiques minimalistes qui, au contraire, restreignent le rôle de la morale à minimiser les torts causés à autrui. La plupart des ouvrages du même auteur sont tout aussi recommandables. Ruhénogien avait l'art de parler de philosophie morale de façon stimulante et amusante. Son petit recueil de textes intitulé « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine », le livre de poche 2012, est à offrir à tous ceux qui pensent que la philosophie est ennuyeuse comme un livre de Kant.